Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal avec Pascal Masirika.
Les titres de l'actualité au Kasaï-Oriental, l'absence des candidatures féminines alignées aux prochaines élections RDC inquiète en ce moment la coordonnatrice de la dynamique des femmes candidates. Madame Nathalie Ndaya demande par conséquent aux partis politiques d'aligner au plus vite les listes électorales. Les organisations syndicales, sociales et confessionnelles de la RDC plaident pour une réforme salariale des agents de l'État. Objectif affiché, booster le développement du pays. Notre invité, c'est le directeur général de la briqueterie du Sud Kivu, Guy Domouroulazigabé, nous parlera de comment il a formé récemment les pépiniéristes du Maniema sur la fabrication des pots écologiques pour les pépinières. Madame, messieurs, bonsoir. D'abord, cette nouvelle qui vient de nous parvenir. Tête à tête ce dimanche à Nairobi entre le président de la RDC, Félix Tshisekedi Tshilombo, et son homologue kényan, William Ruto, en marge de la cinquième réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine. Au menu, selon la présidence de la République, l'épineuse question sécuritaire dans l'est de la RDC. Aucune autre information n'a filtré. Notez que la réunion de Nairobi aujourd'hui a connu la participation des présidents de 5 communautés économiques et mécanismes régionaux de l'Union africaine. Les participants aux assises d'aujourd'hui ont évalué l'intégration régionale. En sa qualité de président en exercice de la SADC, Félix Tshisekedi Tshilombo a également présenté un rapport succinct sur la marche de cette communauté sous-régionale. Au Kasaï-Oriental, la coordonnatrice de la dynamique des femmes candidates s'inquiète en ce moment suite à l'absence des candidatures féminines sur les listes des partis politiques en prélude aux prochaines élections en RDC. Madame Nathalie Ndaya Tshibaka demande par conséquent aux représentants des partis politiques d'équilibrer les listes électorales. Elle est au micro d'Esther Dalafina.
La plupart des partis politiques, donc environ 99%, n'ont pas aligné des femmes sur les listes électorales. Bien que la loi électorale leur avait donné cette chance-là et avec la possibilité de ne pas payer la caution. Mais malheureusement, nous avons trouvé que les hommes qui dirigent les partis politiques ont pris la décision ferme de ne pas aligner des femmes. Nous voulons qu'à la députation provinciale, que les femmes soient quand même alignées sur les listes électorales. Mais aujourd'hui, nous trouvons que les mêmes hommes veulent toujours prendre le devant par rapport aux femmes. Ce sont les partis politiques qui sont en train de piétiner les ambitions des femmes. Les femmes sont là. Aujourd'hui, là, les femmes sont en train de regretter pour cette mauvaise foi que les représentants de partis politiques ont fait dans le seul but de satisfaire les hommes et de maltraiter les femmes comme d'habitude. Qu'ils aient quand même ces problèmes-là pour qu'à la députation provinciale, qu'ils puissent aligner des femmes. Moi, je dirige une association de femmes candidates et je vois comment les femmes sont en train de venir réclamant que nous puissions plaider, intervenir. Et nous avons intervenu, mais personne ne veut prendre en considération notre plaidoyer.
Au Nord Kivu, pendant 7 ans, le député national élu de la ville de Goma au compte de la Mouka pose actuellement 2 conditions avant de déposer sa candidature pour les élections de décembre prochain. C'était hier lors d'une conférence débat animée à Goma. Il a parlé de la libération du territoire de Rutshuru et de 3 groupements du territoire voisin de Masisi qui est contrôlé actuellement par le M23. Ses propos ont été recueillis par Bernard Nenyangi.
Au fur et à mesure que l'organisation des élections chaotiques continue, la situation après les élections se détériore davantage. Je vais déposer ma candidature lorsque le gouvernement et la CENI auront répondu à 3 conditions. La première, c'est la libération de Masisi et de Rutshuru. La deuxième condition, c'est le retour des déplacés de Masisi et Rutshuru afin l'audit du fichier électoral qui contient, comme celui de 2018, au moins 10 millions d'effectifs qui représentent 46% de l'électorat. C'est la question de l'inclusivité du processus électoral. Je considère que avec la présence de 47 000 hommes armés au Nord Kivu, il est possible de libérer Rutshuru, de libérer Masisi, si dans les chefs du pouvoir à place et de la communauté internationale, il y a la volonté, parce que laisser Masisi, Rutshuru, eh bien, nous allons dans une escroquerie électorale. Il n'y aura aucune institution provinciale qui va siéger. L'état de siège va continuer. Bien plus, nous aurons légitimé la menace de balkanisation de notre province. Et ça, je ne voudrais pas être complice.
Notez qu'une centaine de partisans de la Mouka et ceux de l'ESID ont assisté à cette conférence débat sur les défis d'un processus électoral mal engagé dans le contexte de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Et puis dans les cadres de son projet dénommé Congo Tolingi, entendez le Congo que nous voulons, le réseau social Pona Congo a fait hier la restitution du contrat social élaboré après les consultations populaires initiées dans les villes et territoires de la RDC. Floribert Anzuluni, membre de ce réseau, affirme à Radio Okapi que parmi les problèmes qui ont été soulevés, il y a notamment la mauvaise gestion par les dirigeants de la RDC, l'absence des politiques sociales et la corruption. Face à ce tableau sombre, le réseau citoyen Pona Congo appelle par conséquent les Congolais à s'approprier ce contrat social. Floribert Anzuluni est au micro de Jean-Désiré Kanyama.
La grande majorité des citoyens que nous avons consultés estiment que le Congo d'aujourd'hui n'est pas le Congo dont nous rêvons tous. Il y a énormément de frustration, énormément de déception. Nous avons parlé des questions liées au leadership politique, où il y a également une grande déception, des questions liées à l'économie, où il y a une grande déception, où l'entrepreneuriat local surtout n'est pas pris en compte, c'est l'un des points essentiels, des questions sécuritaires, où les Congolais estiment que la sécurité n'est pas suffisamment prise en charge comme une priorité et que les dirigeants ne sont pas suffisamment engagés sur cette question. Il y a la question de l'éducation, de la santé. Toutes ces questions-là ont malheureusement emmené la conclusion selon laquelle le Congo d'aujourd'hui n'est pas encore le Congo que nous voulons. Mais malgré tout, nous sommes constants de constater qu'il y a encore de l'espoir, que les Congolais sont déterminés à continuer à s'engager pour que nous puissions atteindre ce Congo plus beau qu'avant. Et nous voulons que les futurs dirigeants de demain s'engagent formellement à respecter les engagements qui se trouvent dans ce contrat.
Notez que le CALCC et les Milapro ont participé également à cette consultation populaire. Retournons maintenant au Nord Kivu où 11 corps sans vie ont été retrouvés ce matin sur la colline de Rubona près de Bukombo dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. Selon des sources locales, ces infortunés auraient été tués lors des affrontements survenus hier entre les rebelles du M23 et des miliciens locaux qui écument la zone. À Goma, Bernard Denyangui.
C'est après le retrait des rebelles du M23 du centre de Bukombo qu'ils auraient contrôlé depuis hier samedi à l'issue de ces derniers combats que ces corps sans vie sont retrouvés ce dimanche dans la matinée, indiquent les sources de la société civile du groupement de Bukombo. Selon ces sources locales, tous les 11 corps ont été retrouvés dans une ancienne position des combattants Nyatura du groupe de la coalition des mouvements pour le changement CMC sur la colline de Rubona près de Bukombo centre. Cette position aurait été momentanément occupée pendant 3 jours par les rebelles du M23. Ces sources supposent que ces civils feraient partie des jeunes réquisitionnés pour transporter les bagages des rebelles depuis le village de Kojo Kijugu, groupement de Tongo, ainsi que Kaembe, groupement de Bukombo. Des villages qui ont été successivement occupés par les rebelles pendant les 3 jours de combat. Les mêmes sources parlent aussi du village Kachovu, du groupement de Bukombo, qui aurait été incendié complètement pendant les mêmes affrontements. Goma, Bernard Denyangui, Radio Okapi.
Autre région, autre drame. En Ituri, 4 autres corps ont été découverts hier samedi au village d'Apesiko, dans la chefferie de Babilaba Kwanza, territoire de Mambasa. Ce qui porte à 16 les nombres de personnes qui ont été tuées par des rebelles ougandais de la DIEF à Elaka Nord et à Apesiko. La nouvelle société civile de Mambasa dénonce la montée de l'insécurité en dépit de l'élargissement des opérations conjointes entre les FARDC et l'UPDF dans la zone. À Bounia, la correspondance de Martial Kizabiamungu.
Tous ces corps inertes des civils, à majorité de cultivateurs, tués par des ADEF, ont été mis à terre samedi même par la population appuyée par les éléments Maïmaï appelés les Wazalendo. La nouvelle société civile congolaise de Mambasa indique que ces rebelles qui ont déjà érigé leur bastion à Banzou-Banzou profitent de l'absence des FRDC dans plusieurs villages de la chefferie de Babilaba Kwanza pour multiplier les exactions contre la population. Celle de l'intervention des Maïmaï Wazalendo essaye de limiter les dégâts. Cette structure demande l'effectivité de l'élargissement des opérations conjointes FARDC-UPDF dans la zone est de la RN4. John Vuleverio, son coordonnateur.
Les opérations conjointes UPDF et FARDC devraient s'intensifier dans les territoires de Mambasa, surtout vers la zone est passant par la RN4.
Depuis février dernier, la société civile du territoire de Béni au Nord Kivu a également multiplié les appels à l'élargissement des opérations militaires FARDC-UPDF contre les ADF dans la partie ouest de ces territoires. Cette zone est également devenue une cible des attaques récurrentes des ADF. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Revenons un instant au Nord Kivu où les habitants de la commune rurale de Kanyabayonga, chefferie de Bouito dans le territoire de Rutshuru, dénoncent les tracasseries attribuées aux Wazalendo. Ces miliciens ont érigé des barricades illégales où ils font payer des taxes aux voyageurs. Le président de la société civile locale plaide pour leur prise en charge. Daniel Mouindo a été joint par Gabriel Ouamenia.
La position de signer une loi qui doit retenir les réservistes, c'est une bonne loi, nous-mêmes nous la saluons. Mais de l'autre côté, il fallait que ces mêmes réservistes soient intégrés dans la gestion de la chose publique au même moment qu'on amène la nourriture des militaires, des non-militaires de FARDC, qu'on amène la prime des non-militaires de FARDC. On pouvait faire autant à ces réservistes et cela pouvait être maintenant un soulagement à la population qui aujourd'hui semble être victime à n'importe quel mot qui se présente. Il y a plusieurs barrières. Quelqu'un se dirige par exemple dans le champ, quelqu'un qui était à droite de la commune de Kanyabayonga, il se dirige vers Lulunga, vers Vilama, vers Blimaji, partout là-bas. Il faut qu'il soit vraiment soumis à une paix de jeton, de réservistes. Ceux qui ne sont pas encore peut-être, ceux qui n'ont pas encore indiqué le processus là, pour qu'on puisse trouver vraiment une solution quant à cette question. Il faut que le gouvernement soit responsable aussi.
J'ajoute que tous nos efforts pour avoir la réaction du porte-parole de la 34e région militaire n'ont pas du tout abouti. Autre nouvelle sur Radio Okapi ce soir, les organisations syndicales, sociales et confessionnelles de la RDC encouragent le gouvernement central à mettre en place une politique salariale au profit des agents de l'État. Elles l'ont dit à la presse hier ici à Kinshasa. Ces structures sont convaincues que la réforme salariale va ainsi booster le développement du pays. Blaise Ndongala Mayanda.
Ces syndicalistes conviennent que la politique salariale doit avoir comme sous-bassement la production, la réduction du train de vie des institutions politiques, la lutte contre les coulages des recettes publiques et la corruption. Pour l'exercice budgétaire prochain, ils demandent au gouvernement de convoquer les assises de la politique salariale, comme les précise Henri-Paul Kanakana du syndicat Transparence Justice Sociale.
La synergie des organisations syndicales et sociales recommande au gouvernement d'instruire le ministre de la fonction publique pour prendre dans le plus bref délai un arrêté convoquant les assises de la politique salariale en République démocratique du Congo, dont les travaux seront sanctionnés par un décret sur la politique salariale. Ces assises auront également le mérite de faire des propositions de salaire minimum interprofessionnel garanti et de projeter les règlements d'administration sur les barèmes des référents pour toutes les catégories professionnelles des agents publics de l'État ainsi que des travailleurs de toute nature.
La synergie des organisations syndicales et sociales dit par ailleurs avoir constaté que depuis la signature du contrat de l'innovation de Mboudi en 2004, les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas réussi à instaurer une politique salariale incitative permettant aux travailleurs de renflouer les caisses de l'État.
Au Maniema maintenant, la Maison de la Femme a formé 25 dames, chefs de ménage et de jeunes sur la fabrication des foyers améliorés et réchauds à gaz. 300 foyers améliorés et 12 réchauds à gaz ont été fabriqués en vue d'accélérer au plus vite la cuisson propre et moderne pour tout le monde. Radio Kapikindu, Florence Kizalunga.
Pour la Maison de la Femme du Maniema, à part la lutte contre le réchauffement climatique, cette formation vise également l'autoprise en charge financière et managériale de ses bénéficiaires. Fatouma Dal Geneviève, la coordonnatrice.
Nous sommes très heureux d'avoir formé pour la première phase 25 bénéficiaires qui sont aujourd'hui capables de fabriquer des foyers améliorés et des réchauds à gaz. Nous l'exhortons de capitaliser cette formation car d'ici là, nous allons commencer à faire la vente.
Pour la pérennisation de cette formation, les bénéficiaires ont besoin d'un accompagnement. Kangela Ngumbi Julienne.
Nous, les bénéficiaires, disons merci à la Maison de la Femme pour cette formation. Mais le début a toujours été difficile. Hein? Nous n'avons pas de moyens. Nous demandons l'accompagnement des autorités, partenaires et hommes de bonne volonté pour la pérennisation de nos activités, afin de nous prendre réellement en charge.
Ces bénéficiaires vont se répartir en groupes pour produire en grande quantité ces foyers améliorés et réchauds à gaz qui serviront la communauté d'Imaniema. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Revenons ici à Kinshasa où le centre culturel Plateforme Contemporaine a lancé hier un nouveau programme intitulé Carte Blanche. Pendant 5 mois en effet, ce programme va sélectionner un artiste ou un opérateur culturel comme manager chargé d'assurer la gestion et la programmation des activités culturelles. Et pour les mois de juillet, août et septembre, la slameuse, poétesse et photographe Do Sosemé a été sélectionnée. La programmation des mois d'octobre, novembre et décembre sera assurée par l'opératrice culturelle Oracle Ngoy, responsable du collectif Africa Diva et organisatrice du festival Yambi City. Le chargé de l'administration de la plateforme contemporaine parle ici du nouveau programme. Ben Tezangui s'est confié à Jean-Marc Matouaki.
La plateforme contemporaine pense toujours à innover dans le secteur culturel. C'est ainsi qu'au cours de cette année, Carte Blanche intervient comme le deuxième programme culturel qui vient avec comme but d'apporter un renforcement des capacités auprès des artistes opérateurs culturels qui se développent déjà à devenir managers culturels des espaces culturels. Alors dans ce programme, c'est beaucoup plus axé sur la formation, le renforcement des capacités dans la pratique, de voir des artistes demain devenir des opérateurs culturels qui seront à mesure de gérer, de programmer des activités culturelles, mais aussi de faire asseoir l'entrepreneuriat culturel localement. Déjà, ce qu'il faut savoir, la sélection a été faite par rapport aux demandes que nous avons reçues de Do et ensuite des oracles qui sont déjà des artistes qui ont l'habitude d'être accompagnés par la plateforme contemporaine. Alors, dans la programmation, chacune de ces artistes a d'abord au départ amené des propositions à la plateforme contemporaine autour duquel nous avons essayer de discuter, de donner des orientations.
Actualité internationale.
Le Parlement ghanéen vient d'adopter une loi qui rend légale la production du cannabis à des fins médicinales et commerciales. Cette loi permettra ainsi la fabrication des médicaments essentiels et des produits comme le charbon, le béton et les textiles. Cette décision permettra au Ghana, durement frappé actuellement par une crise économique sans précédent, de s'octroyer une part de ce marché mondial qui pèse plusieurs milliards de dollars. Et puis le Premier ministre israélien est sorti ce dimanche de l'hôpital où il a été admis hier samedi après-midi pour une déshydratation. Benjamin Netanyahou, âgé de 73 ans, a été transporté d'urgence à l'hôpital Sheba, près de Tel Aviv, où il a passé une série d'examens, selon le chef du département de cardiologie du dit hôpital.
L'invité.
Et notre invité, c'est le directeur général de la briqueterie du Sud Kivu, Guido Murula Zigabe, affirme qu'il a formé les pépiniéristes du Maniema sur la fabrication des pots écologiques pour les pépinières. Il s'entretient à Kindu avec Florence Kizalunga.
Monsieur Murula Zigabe, bonjour.
Bonjour madame.
Vous venez de former les pépiniéristes du Maniema sur la fabrication de pots écologiques. Qu'est-ce que vous visez en formant ces gens?
Normalement, ce que nous visons, c'est d'écologiser l'activité de la réforestation. Au fait, pour chaque arbre planté, un sachet plastique est jeté dans l'environnement. Si déjà planter un arbre est un acte écologique, abandonner le plastique dans l'environnement ne l'est pas. D'où maintenant cette formation qui va éliminer le plastique de la chaîne de valeur dans tout ce qui est développement des pépinières d'arbres. L'activité consiste à utiliser les déchets de plantation de bananes pour fabriquer les pots écologiques pour les pépinières d'arbres. Les sachets plastiques utilisés viennent de la Chine. Donc, ils sont importés, ils coûtent cher, mais aussi exigent une main-d'œuvre abondante parce qu'il faut les couper en des petits morceaux avant tout usage. Mais avec ces pots écologiques, ce sont des résidus de bananes trouvés localement que l'on valorise pour résoudre un problème aussi local.
Les sachets poéthylères présentaient quel danger?
Ils sont dangereux parce qu'ils peuvent vivre dans l'environnement jusqu'à 400 ans. C'est un danger pour la planète et toute sa biodiversité, mais aussi un danger pour les sols.
La pratique que vous venez de former ces gens ici, c'est une innovation dans la province du Maniema. Vous pensez qu'avec 60 participants, ça suffit?
Oui, ça constitue déjà un point de départ, un noyau à partir duquel la technique, l'innovation sera un peu éparpillée. Donc, les gens qui ont été formés ici, on les appelle les formateurs des formateurs. Donc, et ils sont formés pour qu'ils aillent former d'autres. Et c'est comme ça que ça va se répandre dans tout le Maniema.
C'est que vous êtes quand même sûr de ce que vous avez fait vous-même ici et des résultats?
Mais tout à fait, parce que dans 5 jours, on a fait plus de 8000 pots écologiques. Ce que si on nous donnait un mois, on en ferait des millions.
Et maintenant, les déchets des bananes, on les trouve facilement? Parce qu'ici, au Maniement, je pense qu'il n'y a pas de plantation des bananiers.
Donc là, on est en train d'utiliser les déchets des bananes, mais on peut utiliser d'autres feuilles qu'on trouve dans la brousse ici au Maniement. Donc si les déchets des bananes ne sont pas disponibles, on peut utiliser d'autres déchets. Par exemple, les magungu utilisés dans l'emballage des kwanga. Et ils peuvent aussi être utilisés pour se faire.
Mais les feuilles là utilisées pour l'emballage des déchets kwanga, est-ce que ça va donner le même résultat que les fibres des bananiers?
D'ailleurs, ça va donner un résultat beaucoup meilleur que ce que nous donnent les fibres des bananes.
En voyant ces pots écologiques, c'est comme si ça n'a pas une longue durée.
Et c'est pourquoi on les apprécie. Parce qu'en amont, elles servent de contenant de l'arbre. Mais en aval, ou plus tard, ça deviendra la nourriture de la plante. C'est pourquoi on l'appelle écologique, parce que ça se dégrade facilement. Et aujourd'hui, nous n'avons pas besoin des choses qui traînent dans l'environnement. Nous avons besoin des choses qui se dégradent.
En voyant votre innovation, c'est comme si la demande sera grande et que vous ne serez pas à mesure de satisfaire tout le monde. Qu'allez-vous faire?
Je pense que s'il y a une forte demande, c'est déjà une opportunité de développer des plantations de bananes. Parce que s'il y a déjà une demande, c'est qu'il y a de l'opportunité. Une opportunité pour les paysans, une opportunité pour toute personne qui dispose d'une concession à la valoriser en y plantant des bananes, parce qu'il sait déjà qu'il y a un marché. La banane en soi sera vendue comme nourriture, alors que les déchets seront vendus à des fabricants de pots écologiques. Cette innovation est une opportunité de création d'emplois au Maniema et même une opportunité de sécurité alimentaire. Parce que là, maintenant, les gens ils vont planter les bananes, pas seulement pour le souci de vendre des bananes au marché, mais aussi pour le souci même de générer énormément de déchets et pouvoir les vendre à des fabricants de pots.
Vous n'avez pas une idée de faire une usine même de fabrication des pots écologiques dans la province du Maniema?
Je pense que c'est maintenant au programme PIRED et toutes les personnes qui ont été formées de voir comment pérenniser cette activité. Mais ils réfléchissent déjà dans ce sens parce que c'est tout un tas d'opportunités qui sont cachés derrière ces pots écologiques que nous venons. Nous, on est juste venus jeter la base et rentrer à Bukavu. La suite, c'est au Maniémiens d'en décider. C'est peut-être dire que Briquet du Kivu développe déjà cette technologie à Bukavu et nous, on est très contents de pouvoir l'exporter maintenant ici au Maniema. Et nous espérons que Maniema va l'amener à un autre niveau.
Monsieur Moula Zigabe, merci.
Merci, madame.
C'était l'invité de Radio Okapi, le directeur général de la briqueterie du Sud Kivu, Guido Murula Zigabe, était interviewé à Kindu par Florence Kizalunga et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté, merci infiniment à Noël Aluzitu Kabambi qui m'a accompagné.